Bonjour à tous. Nous vous avions annoncé des émissions autour d'un auteur, autour d'un livre, sur des sujets qui nous passionnent. Et donc tout de suite, je me tourne vers Alain Juillet. Bonjour Alain. Vous
Bonjour.
allez bien? Toujours bien.
Toujours bien, on se
Toujours
maintient, on se maintient.
bien. Donc aujourd'hui encore, nous avons un auteur. Vous avez invité un
Oui.
auteur avec un qui vient de sortir un livre et un sujet très 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 intéressant.
Oui.
Je vous laisse présenter votre invité.
Tout le monde aujourd'hui parle de l'affaire ukrainienne, sous une forme ou sous une autre, avec des interprétations dans tous les sens. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tout le monde commence peu à peu, parce que ça n'a été pas le cas au début, à comprendre qu'en réalité, il s'agit d'un conflit entre la Russie et les États-Unis, et que là-dedans, bien entendu, ben nous sommes un élément du problème dans le cadre de notre liaison avec les États-Unis. Alors, lorsqu'on veut comprendre, et comme nous le faisons dans cette émission chaque fois, lorsqu'on veut regarder le dessous des cartes, lorsqu'on veut aller plus loin, il faut comprendre et il faut se référer à l'histoire. L'histoire des relations entre la France et les États-Unis. Non pas, là, cette fois-ci, en revenant à Lafayette, ou à Rochambeau, à Chesapeake Bay, hein, et à Washington, mais en regardant ce qui s'est passé entre 40 et maintenant à travers le général de Gaulle. Et là, il y a un livre qui est, à mon avis, le plus passionnant et le plus intéressant de tous ceux qui sont sortis sur ce thème, qui s'appelle L'ami américain, qui a été écrit par Eric Branca. Et ce livre nous raconte toute l'histoire des relations entre De Gaulle et les États-Unis. Et croyez-moi, et j'en suis certain, dans le cadre de la discussion qu'on va avoir avec Eric, bonjour Eric,
Bonjour Alain.
je suis certain que vous allez pouvoir transposer beaucoup de choses que vous allez entendre sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est bien le but d'une émission comme la nôtre. Alors Eric, on disait De Gaulle et les États-Unis. Et ça commence en définitive dès le début. De Gaulle est à Londres. Hein, Churchill l'aide, il faut bien le dire, en lui permettant de parler à la radio, parce que sans l'autorisation de Churchill, il n'y aurait pas eu d'appel du 18 juin, il ne faut pas l'oublier. Hein, on l'oublie trop souvent, cette histoire-là, mais c'est une réalité. Mais pendant ce temps-là, pendant que l'Angleterre veut se battre contre les nazis, que De Gaulle dit que c'est aussi sa guerre, qu'est-ce qui se passe avec les Américains?
Ben c'est très simple. Les Américains choisissent un maréchal Pétain, le régime de Vichy, et ce, peu ou prou, jusqu'en 1942. Alors, pas du tout parce qu'ils sont fascinés par l'idéologie de la Révolution nationale, évidemment, mais parce que c'est pour eux une occasion extraordinaire de se débarrasser définitivement de ce que pouvait représenter la puissance française avant-guerre. Puissance française, deuxième puissance coloniale, deuxième domaine colonial après les Britanniques. Et donc, la disparition de cette puissance géopolitique de la surface du globe, c'est pour eux une occasion formidable. Et vous vous souvenez du mot de Maurras, le maréchal Pétain, c'est une divine surprise. Et bien, le maréchal Pétain a également été une divine surprise pour Roosevelt, qui jusqu'au débarquement en Afrique du Nord, a poussé Pétain à rejoindre l'Afrique du Nord et a soutenu peu ou prou le régime de Vichy, notamment par des accords commerciaux. Il faut se souvenir que le vieux bélier américain pour pénétrer les marchés, c'est l'ouverture des frontières. Et ils se sont dit que l'Empire français était à prendre commercialement. Et c'est le but, d'ailleurs, des accords d'Arlan-Giraud de 1942.
Oui, parce que justement, ils vont soutenir Pétain, et ensuite, quand les choses vont tourner beaucoup moins bien au niveau de la France, avec la France occupée, puis l'invasion par les Allemands de la partie qui était restée autonome, je dirais, hein, l'invasion du sud de la France, à ce moment-là, on va les voir basculer pour soutenir le numéro 2 du système de Pétain, avec Darlan, et puis ensuite Giraud. Mais parlons un peu de Darlan, parce que Darlan est quand même un personnage, beaucoup ne le connaissent pas, mais qui a eu un rôle essentiel. C'est lui qui a failli, si on avait suivi les Américains, être le patron de la France.
Absolument. Mais c'est l'homme qui, en 1941, quand il était président du Conseil, avant et après Pierre Laval, avait donné les aérodromes français de Syrie aux Allemands pour lutter contre les Anglais. Donc c'est un homme qui a toujours été du côté du Manche. Il a été du côté, ça a été un ultra collaborateur. Et je pense que les Américains ne l'ont pas choisi pour rien, car un homme habitué à collaborer continue dans les bonnes habitudes qui ont été prises. Et je pense qu'il a été choisi pour ça. Puis ensuite, il y a effectivement Giraud. Mais il faut se souvenir que jusqu'en 1944, les Américains, en tout cas l'OSS de Berne, l'ancêtre de la CIA, avait une solution de rechange dans sa poche qui n'était autre que Pierre Laval. Et les Américains ont comploté jusqu'à la mi-juillet 1944, c'est-à-dire quelques jours, un mois avant la libération de Paris, pour une solution intermédiaire entre Vichy et eux-mêmes, et le gouvernement qu'ils auraient imposé à la libération, et cette solution, c'était Pierre Laval.
Ouais, ce qui fait qu'ils ont d'abord soutenu Pétain.
Oui.
Ensuite, ils ont soutenu Darlan,
oui,
qui s'est installé en Afrique du Nord,
oui,
qui allait être le chef de l'ensemble, mmh, que les éléments de la résistance ont assassiné. Et à ce moment-là, ils ont soutenu Giraud, le général.
Exactement.
Giraud, contre De Gaulle.
Contre
toujours
De Gaulle.
Contre De Gaulle.
Toujours.
Hein, c'est clair, tout clair. Et ensuite, quand Giraud est écarté par, mmh, De Gaulle, qui reprend un pouvoir, mmh, absolu sur ce qu'on appelle la France libre, à ce moment-là, ils vont encore jouer à travers l'OSS d'Alain Delos
à Berne,
ils vont essayer de jouer aussi Laval. Donc ils ont systématiquement, pendant la guerre, joué l'autre camp.
Exactement, avec le projet dont De Gaulle a été mis au courant par les Anglais, heureusement qu'il y a eu Churchill et Eden, le fameux projet d'Amgot, c'est-à-dire d'occupation militaire de la France, et qui aurait mis la France dans un statut absolument équivalent à celui de l'Allemagne ou de l'Italie. Et je rappelle dans mon livre que, en plus de ce projet, Roosevelt en avait un autre, qui lui avait été plus ou moins soufflé par Jean Monnet et par Alexis Léger, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui haïssait De Gaulle, qui était l'idée d'une partition de la France. Je rappelle qu'Hitler, dans ses projets, jusqu'en 1942, avait l'idée de diviser la France en cinq. Roosevelt était en trois. C'est-à-dire qu'il aurait détaché de la France toute une partie est pour créer une espèce d'entité belgo-luxembourgeoise, flamande. Et il aurait donné la rive gauche du Rhône aux Italiens pour les remercier d'avoir changé de camp. Donc il y avait non seulement une occupation militaire du territoire, mais il y avait un projet de partition du territoire. Donc on ne peut pas dire que les rapports entre De Gaulle et l'Amérique partaient sur un bon pied.
Alors ce que les gens ne savent pas, mais là vous, dans votre livre vous le racontez très bien, c'est que justement De Gaulle, qui était informé de cette affaire de l'Amgot, dès que la France a été partiellement libéré, c'est-à-dire dès qu'on a libéré Paris, et c'est les Français, hein, c'est la deuxième DB qui a été envoyée pour ça, parce que les Américains ne voulaient pas libérer Paris, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, ils voulaient contourner Paris, ils ne voulaient pas libérer Paris. Et quand il y a eu donc la libération de Paris et puis la libération d'une bonne partie, à ce moment-là, c'est Michel Debré, un des hommes liges, un des adjoints du général de Gaulle, qui tout de suite a mis en place des préfets, hein, des préfets de la République, à l'époque des commissaires de la République, hein, de manière à empêcher que les Américains puissent nommer des responsables de ce fameux Amgot.
Exactement.
Qui allait transformer la France en un pays éclaté,
avec
vassalisé.
Avec une monnaie de singe, oui, qui était le billet drapeau, qui avait un taux de change inférieur à celui qu'avait le mark pendant la période de l'occupation. C'est complètement fou. Et il y a vraiment eu 10 jours, là, entre le 6 juin et le 15-16 juin 1944, où tout a failli basculer. C'est-à-dire qu'il y a eu une course de vitesse entre les Américains qui voulaient imposer leur administration tout de suite dans les meubles de Vichy, et puis les commissaires de la République qui sortaient du maquis, de la clandestinité, et qui ont pris leur place. Et ça s'est passé à Bayeux, ça, et ensuite, après, évidemment, le pli a été pris.
Mais pour ceux qui pourraient douter de ce qu'on raconte, on a encore les monnaies de l'époque qui avaient été imprimées par les Américains qui devaient remplacer le franc. Hein. Ça existait, ça existe, on les a encore. Donc si vous voulez, il n'y a pas le moindre doute sur cette histoire que, évidemment, personne ne raconte parce que c'est un peu gênant. Mmh. C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais c'est dans les mémoires de tous les témoins de l'époque, et notamment celle de Michel Debré, où il raconte cette course de vitesse.
Donc, on voit dans cette affaire-là que la solidarité de l'Amérique avec la France était quand même une solidarité à sens unique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Très intéressé.
Très intéressé. Et je crois que ça, c'est, il ne faut pas l'oublier, parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, si on transpose un peu, on voit bien que, par exemple, les sanctions qui ont été imposées à la Russie, mais qui pénalisent lourdement l'Europe, ont été inspirées par les États-Unis, et on en voit les conséquences, puisque ce sont les seuls qui ne souffrent pas des sanctions. Ce qui laisse quand même à réfléchir, mais qui montre bien qu'on reste dans cette ligne où l'intérêt américain est l'intérêt total. En effet. Alors, on peut aller un peu plus loin, d'ailleurs. Alors, on va reprendre la suite, parce que c'est dans votre livre, au fur et à mesure, on découvre tout ça. On voit aussi combien les Américains ont voulu, ensuite, par d'autres voies, imposer leur vision de l'Europe par rapport à un de Gaulle qui, lui, avait une vision bien claire de la France, mais également avec d'autres qui étaient autour. Parce que quand de Gaulle s'est rapproché d'Adenauer, c'était bel et bien pour former un ensemble qui était capable de tenir tête à l'Amérique.
Absolument. Et les problèmes de défense sont d'ailleurs absolument fondamentaux. Là. L'idée américaine dans les années 50, en même temps que la construction supranationale de l'Europe, la CECA, etc., tout ce processus qui est lancé par Jean Monnet et Robert Schuman, le prolongement militaire, c'est la CED. Oui. La CED, elle échoue de justesse en août 1954 grâce à une coalition complètement hétéroclite qui va de l'extrême droite aux communistes, mais évidemment, le centre, c'est les gaullistes. Vous avez le général Weygand qui est avec d'anciens résistants. Vous avez des communistes. Enfin, bon, c'est une coalition comme seule la France peut en produire.
Sans vouloir faire de comparaison, on est un peu dans des coalitions de ce genre aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de coalition, mais c'est la pagaille.
Exactement. Exactement.
C'est clair.
Et donc, quand la CED est repoussée, la CED, elle allait très loin, puisqu'il n'y avait plus d'hymnes, plus de drapeaux, et le commandement de l'armée française était transféré à Washington. C'était l'OTAN. Donc en fait, on y arrive un peu par d'autres voies aujourd'hui. Et quand de Gaulle arrive au pouvoir, son idée, contrairement à tout ce qu'on entend, est de relancer l'idée européenne, mais de la relancer sur des bases européennes et nationales. Et donc c'est le fameux traité de l'Élysée. Vous savez que le premier acte, les deux premiers actes géopolitiques de Gaulle, à peine arrivé au pouvoir, il est président du Conseil encore, il n'est pas encore président de la Ve République, il est le dernier président du Conseil de la Quatrième. C'est le mémorandum Eisenhower, avec lequel il a de bons rapports.
Il a eu une phrase très intéressante sur, on parlera du deep state américain,
tout à fait.
Le fameux état profond qu'on
tout
a
à fait.
En face actuellement.
Eisenhower, vous parliez de la libération de Paris tout à l'heure, a joué la carte de Gaulle contre Roosevelt. Il était tout à fait pour libérer Paris au mois d'août 1944, alors que Roosevelt, ça l'aurait beaucoup arrangé, même que les communistes prennent le pouvoir à Paris, parce qu'il aurait pu dire, voyez, de Gaulle, c'est les communistes derrière. Ouais. Bref. Et donc, dès que de Gaulle revient au pouvoir en septembre 1958, il reçoit Adenauer et il envoie une lettre à Eisenhower pour lui dire qu'il faut réformer l'OTAN, que ça ne peut plus marcher comme ça. Ouais. Et que si on ne le réformait pas, eh bien, on quittera le commandement intégré. Il ne l'a pas pris en traître. Mémorandum du 16 septembre 1958.
Est-ce que vous pouvez, à ce moment-là, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez rappeler en deux mots pourquoi le général de Gaulle considérait que l'OTAN, ça ne marchait pas? Parce que c'est important. Aujourd'hui, où les Américains sont en train de resserrer l'Europe autour de l'OTAN, ont tué indiscutablement la défense européenne, au profit de la défense OTAN, avec toutes les conséquences que ça aura dans le futur. Donc qu'est-ce qui motivait le général de Gaulle pour dire « ça va pas ».
Il y a une raison de fond et une raison d'opportunité. La raison de fond, c'est que personne ne meurt pour quelqu'un d'autre. Et que si la France, comme il le dit dans sa grande conférence de l'école de guerre à Strasbourg, devant les officiers, si la France fait la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Ça, c'est la raison de fond. Personne ne meurt pour qu'un autre. La raison de forme,
Ça me rappelle une phrase, je ne peux pas manquer de la citer quand même. C'est celle du président Biden disant « Nous fournirons des armes aux Ukrainiens jusqu'au dernier d'entre eux ».
Oui, mais
C'est
extraordinaire. C'est extraordinaire. La deuxième raison, c'est que au début des années 60, la doctrine américaine, la doctrine de l'OTAN, était que tout, c'était la riposte nucléaire massive. Tout membre de l'OTAN attaqué faisait l'objet d'une riposte nucléaire massive, c'est-à-dire qu'il y avait un engagement. De Gaulle n'a jamais cru à cela. Et c'est si vrai qu'en 1963, à la fin de l'administration Kennedy, les Américains ont abandonné l'idée de la riposte massive, qui était une garantie insuffisante, mais qui pouvait passer pour une garantie, pour l'idée de la riposte graduée. C'est-à-dire que l'Europe pouvait parfaitement être un champ de bataille où les deux grands auraient réglé leurs problèmes entre eux, sans pour autant risquer leur propre existence. Et De Gaulle a dit, voyez, c'est bien la preuve que cette affaire de l'OTAN peut servir contre nous pour nous transformer en champ de bataille. Et donc, il a considéré que
entre
c'était
parenthèses, une... C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui.
Et hein, c'est exactement ce qui se
passe
aujourd'hui.
Je pense que tout le monde s'en rend compte. Hein. Nous sommes devenus un champ de bataille dans un conflit entre les deux grandes puissances. Et nous sommes tous impliqués dans ce cadre-là.
C'est, voilà. Alors je pense qu'une fois de plus, De Gaulle était, avait 40, 50, 60 ans d'avance.
Oui.
60 ans d'avance, en l'occurrence. Et donc l'abandon de la riposte graduée pour la riposte massive pour la riposte graduée doctrine Dick McNamara, ça a été pour De Gaulle le déclic. Il a dit c'est pas possible, on ne peut pas rester dans un système où on va déclarer pour nous, à notre place, quels sont nos intérêts vitaux et quels sont nos buts de guerre. Or, quand vous voyez les conclusions du dernier sommet de l'OTAN de Madrid, vous vous rendez compte que les buts de guerre, pour la première fois, ont été définis comme étant ceux des États-Unis. Et que l'ennemi numéro un, c'est la Russie. Et puis ensuite, la Chine.
Oui, on pourra peut-être en dire juste un mot, parce qu'il y a effectivement, derrière, pour l'OTAN, c'est très clair. Et pour les Américains, l'ennemi, c'est la Chine, et le but, c'est d'emmener les Européens faire la guerre là-bas. Ce qui, pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est quand même un peu douteux. J'ignorais que l'Atlantique était dans la mer de Chine. Enfin bon, c'est un détail.
Les Chinois ont rappelé d'ailleurs opportunément que...
Et ils n'ont pas tort.
Ils avaient une base... En dehors de leurs frontières, les Américains en avaient 825.
Oui, non mais c'est...
Bon.
Non, mais, exactement. Et les Américains ont fait depuis la guerre 22 guerres à l'extérieur. Les Chinois n'en ont fait jusqu'à maintenant aucune. Non,
et donc aussitôt après la sortie de l'OTAN, les circonstances ont donné raison à De Gaulle, avec l'affaire vietnamienne, etc., etc., où tous ceux qui n'ont pas été... qui n'ont pas suivi De Gaulle ont été entraînés dans un conflit qui aurait pu devenir mondial.
Alors une question qu'on peut se poser, parce qu'on voit qu'il y a une continuité, hein, on le voit jusqu'à maintenant, il y a une continuité permanente, à part quelques moments où il y a des tensions et où le président s'oppose en définitive à un certain nombre de groupes de pression, mais aux États-Unis, si on prend la suite de toute l'histoire, on voit bien que le président suit en général ce qu'on appelle, nous, les recommandations de l'état profond.
L'état profond, absolument.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Parce que vous connaissez, vous l'avez bien étudié. Et puis tout à l'heure, on parlait d'Eisenhower, et Eisenhower en a aussi beaucoup parlé. Président des États-Unis, Eisenhower qui a été, je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, qui a été le chef de toutes les opérations militaires des Alliés en France, hein, quand ils ont débarqué en France et ensuite, mais qui... Après, a été président des États-Unis. Il ne faut pas l'oublier.
Et,
donc,
et qui avait gardé
un bon président, d'ailleurs.
Avec De Gaulle des rapports assez cordiaux. De Gaulle n'avait pas oublié ce qu'Eisenhower avait fait pour lui, parce qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Et vous avez raison de parler d'Eisenhower, car vraiment, il y a un fait très oublié, très peu cité, et qui, à mon avis, prend toute son importance aujourd'hui. C'est le discours que Eisenhower a fait à la télévision. Son discours de fin de mandat que j'ai amené ici parce que je pourrais le citer de mémoire, mais je préfère vous en lire la traduction, car vous allez voir qu'à chaque ligne nous ramène à des choses extrêmement actuelles. Donc le 17 janvier 61, il va laisser la place au président Kennedy. Lui était républicain, Kennedy est démocrate. Ils sont en désaccord sur beaucoup de sujets. Il y a une chose sur laquelle ils vont être de plus en plus d'accord, c'est la puissance du lobby militaro-industriel. Et voici ce que dit Eisenhower, militaire, président des États-Unis, pas un complotiste, hein. Bon,
non.
Voilà ce qu'il dit devant à peu près 200 millions de téléspectateurs américains. La présence simultanée d'un énorme secteur militaire et d'une vaste industrie de l'armement est un fait nouveau dans notre histoire. Nous devons comprendre ce qu'elle implique, car ses conséquences sont extrêmement graves. Notre travail, nos ressources, nos moyens d'existence sont en jeu et jusqu'à la structure même de notre société. Nous devons veiller à empêcher le complexe militaro-industriel d'acquérir une influence injustifiée dans les structures gouvernementales. Nous nous trouvons devant un risque mortel pour l'avenir, qu'une concentration désastreuse de pouvoir en des mains dangereuses aille en s'affermissant. Nous devons veiller à ne jamais laisser le poids de cette association de pouvoir mettre en danger nos libertés ou nos procédures
démocratique. Seul un peuple informé et vigilant réussira à obtenir que l'immense machine industrielle et militaire qu'est notre secteur de la défense s'ajuste à nos objectifs pacifiques. Qu'est-ce qu'il y a à dire 60 ans après ?
Tout est dit.
Peu de choses.
Tout est dit.
Et je rappelle que c'était Eisenhower.
Et oui, et militaire, donc général en chef des forces alliées. Et oui, mais je crois que c'est très important, et c'est pour ça que je suis ravi, merci d'avoir lu ce texte, parce que ça montre bien la problématique dans laquelle nous sommes, parce que si on va un peu plus loin, alors derrière ça, mais on va y revenir, on va revenir de tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle, nous, maintenant, les néoconservateurs, les va-t-en-guerre, si tu veux, traditionnels, enfin, ceux qui ont conçu tout le processus agressif des États-Unis sur les 30-40 dernières années, sont des gens qui, d'un côté, pour la plupart d'entre eux, sont d'origine des pays de l'Est, il ne faut pas l'oublier, Brzezinski et les autres, donc Kagan, le mari de Mme Muland, là, qui est la l'égérie du problème ukrainien, et secrétaire d'État adjointe aux affaires étrangères des Américaines, on voit ces gens-là, en réalité, font appuyés, sont l'émanation de cet état profond dont parlait le général Eisenhower, en disant « attention, danger », parce qu'ils peuvent nous entraîner à faire n'importe quoi. Et là, je crois que c'est très, très important. Alors derrière, il y a un personnage que j'ai découvert dans votre livre. Enfin, j'avais lu ses mémoires, donc je le connaissais, mais j'ai découvert, par contre, ses relations avec le général de Gaulle. C'est le président Nixon.
Absolument.
Qui, lui, entre parenthèses, tenait tête à l'état profond, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il les a sautés. D'ailleurs, ça, c'est un
Absolument.
Problème.
Et on peut aussi peut-être le dire de Kennedy, car je raconte dans mon livre une chose peu connue, c'est que si les relations n'ont pas été faciles entre De Gaulle et Kennedy, il y avait d'abord un grand respect, et à la fin, ça aurait pu s'arranger. Mais ça, on parlera peut-être de Kennedy, mais...
Oui, mais on peut parler de Kennedy maintenant, puis de Nixon après. De manière, ce sont deux personnages qu'on ne peut pas éviter
Absolument.
Lorsqu'on parle de Absolument. Gaulle et des États-Unis.
Surtout quand on sait que De Gaulle a été extrêmement mari, meurtri, choqué de l'assassinat de Kennedy. Il a dit, d'ailleurs, il est allé très loin, puisqu'il a accusé... Il n'a pas parlé de l'état profond, mais il dit à Alain Perfitte, qui prenait en note absolument toutes ses confidences, car il était son porte-parole. Et De Gaulle avait d'ailleurs, c'est passionnant, cette façon de gouverner. Il disait, il faut que j'en dise le maximum à Perfitte pour qu'il en dise le minimum, mais que ce minimum soit dans la vérité. Et donc, Perfitte, dès qu'il sortait du bureau du général, notait religieusement tout, et puis ensuite il en faisait sa tambouille personnelle. Mais d'où la valeur exceptionnelle de sa trilogie, c'était De Gaulle, parce que ce sont vraiment, moi j'ai vu les notes qu'il prenait, mais il les avait montrées, c'est tout à fait extraordinaire, c'est presque de la sténographie. Bon. Et De Gaulle est extrêmement choqué de l'assassinat de Kennedy, et il dit son histoire, ça aurait pu être la mienne. Car à l'époque, De Gaulle est confronté à l'OS,
exactement.
Avec d'ailleurs, au sein de l'OS, des liaisons plus que suspectes avec la CIA, dont on s'est aperçu. Je donne dans mon livre pas mal de preuves. Bon, bref. Et donc, il avait été extrêmement choqué de la manière dont Kennedy avait été éliminé. Il pensait que c'était non pas la CIA, mais une partie peut-être de la CIA.
Enfin, les dernières études qui ont été faites récemment, il y a eu un livre, enfin un livre. Il y a un manuscrit qui a circulé, parce que là, on est dans des domaines où tout le monde hésite à parler trop, mais qui confirme sans aucun doute que c'est un complot dans lequel de très hautes personnalités américaines, dont le vice-président des États-Unis, étaient au courant.
Absolument, absolument.
Donc c'est quand même, là on est vraiment, c'est bel et bien l'état profond
écoutez,
qui est concerné. Hein,
on peut dire ce qu'on veut des Américains.
Ah oui, c'est clair.
Et de leur politique, mais quand ils déclassifient des choses, ils les déclassifient.
Oui.
Ont-ils eu conscience de ce qu'ils ont déclassifié? Vous pouvez trouver sur le site de la bibliothèque présidentielle américaine de Johnson des choses tout à fait incroyables, et notamment un coup de fil entre Johnson et Hoover, le grand patron du FBI, qui fait son job parfaitement bien, et qui explique à Johnson, quelques heures après l'assassinat de Kennedy, que certes, on a mis la main sur le principal tireur, mais il y en a certainement un autre.
Oui.
Et on entend très distinctement Johnson dire, écoutez, là, je suis très occupé par l'organisation des obsèques, vous me reparlerez de ça plus tard. Et Hoover fait vraiment son job, il revient deux fois à la charge et il ne peut pas aller au bout de sa procédure. C'est stupéfiant.
Parce que maintenant, on sait que Johnson était parfaitement au courant.
C'est stupéfiant. Et alors, donc, on en revient au lobby militaro-industriel et au Deep State. Si vraiment quelqu'un en est la marionnette, c'est bien Johnson.
C'est clair.
C'est bien Johnson qui lance l'affaire du Vietnam avec vraiment l'aval de la CIA, qui, poussé par eux, déclare une guerre économique à la France sans précédent. Sans précédent, notamment la guerre, l'embargo des composants informatiques qui nous permettent d'avoir la bombe thermonucléaire.
Oui.
Et là, je fais une petite incidente avant de parler de Nixon. Au début du mandat Kennedy, Kennedy est assez peu favorable, comme tous les présidents américains, à ce que la France ait la bombe en dehors de l'OTAN. Il est tout à fait prêt à ce qu'on l'ait. Ils sont même prêts à nous donner gratuitement la technologie thermonucléaire, mais il faut rester dans l'OTAN.
Oui.
Et De Gaulle lui dit, mais non, si ça continue comme ça, on quitte l'OTAN. D'ailleurs, on commence déjà à quitter à ce moment-là les forces militaires interalliées, le commandement de Méditerranée, etc. De Gaulle fait exactement ce qu'il a annoncé. Bon. Et puis, les choses changent en 62. Et Kennedy évolue considérablement. Qu'est-ce qui le fait changer? Il est pratiquement ouvert à nous laisser accéder à la technologie thermonucléaire et à ce que nous quittions l'OTAN, le commandement intégré. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu qu'à deux occasions importantes, le mur de Berlin et l'affaire des missiles, eh bien, il avait trouvé un allié en Europe et un seul qui la était après aller au bout, et c'était la France.
Tout à fait.
Et on ne le dit jamais assez. Et il envoie un émissaire en France, qui est Dean Rusk, secrétaire d'État, porter un message à De Gaulle pour lui dire que la France est Washington est en train de lever ses dernières réticences. Là-dessus, Kennedy est assassiné. Et ce message est oublié.
Mais vous me faites penser, pour dire que la France a toujours été le meilleur allié des États-Unis, quand il y a eu l'affaire du 11 septembre, les deux tours qui sont tombées, le premier pays qui a envoyé des collaborateurs, et je le sais parce que j'en faisais partie, qui a envoyé des collaborateurs aux États-Unis trois jours après ce drame, pour dire aux États-Unis, nous sommes avec vous et on vous aidera par tous les moyens, comme par hasard, c'était la France. Donc c'est vrai que traditionnellement, la France est un allié très proche. Indépendant, mauvais caractère peut-être, mais un bon allié.
Depuis, sont intéressantes. C'est un des seuls points sur lesquels elles sont intéressantes. Parce que
on est d'accord.
Il ne les a pas écrites. Mais là,
il raconte une histoire.
C'est très intéressant parce qu'il va voir Bush et il lui dit mais on va vous aider en Afghanistan. Hein. Et l'autre ne lui parle que de l'Irak. Chirac dit non, mais attendez, là je vous parle d'Afghanistan. Et l'autre ne le parle que de Saddam Hussein. Bon, et là il comprend qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
Il y a un problème.
On nous parlions
de Kennedy, mais il y en a. Alors, il y a un président des États-Unis qui a vraiment été, qui a eu une relation très amicale, c'est Nixon.
Et à l'époque, il n'y avait pas de relation amicale entre les chefs d'État.
Non.
Les embrassades comme aujourd'hui, les gens ne se tutoyaient pas.
Non, ils
ne
s'embrassaient pas tout le temps.
Ça n'existait pas. Quand De Gaulle embrasse Adenauer, c'est vraiment parce qu'il veut montrer.
C'est un geste fort.
Bon. Et en fait, De Gaulle apprécie Nixon depuis qu'il est le vice-président d'Eisenhower. Il l'a rencontré aux États-Unis, il l'a rencontré à Paris quand Eisenhower est venu. Et tout le monde a expliqué qu'après l'échec de Nixon face à Kennedy, oui. Nixon était fini.
Oui,
notre ambassadeur aux États-Unis, Hervé Alphand, lui avait expliqué « c'est un loser ». Ne perdez pas votre temps, mon général, à le recevoir. Et De Gaulle lui avait dit ben, c'est pour ça que je le recevrai. Parce que je crois que ce type-là sort du lot. Il a une vraie culture européenne, il a une vraie culture tout court. Nixon, il avait un peu une tête de brute. Il fallait qu'il se rase trois fois par jour pour ne pas avoir l'air patibulaire, ce qui à l'époque ne se faisait pas. Mais c'était un type profondément cultivé. Il n'avait rien à voir avec son successeur. Évidemment, ça avait plu à De Gaulle. Et il connaissait l'Europe. Et il avait très vite compris que la France pouvait être un allié fort et indépendant. Et de Gaulle a reçu Nixon deux fois pendant sa traversée du désert, dans les années 60, y compris une fois à l'Élysée en famille, ce qui, là encore, n'existait pas, ne se faisait pas, pour bien montrer qu'il le respectait. Et de quoi parle-t-il? Il parle de la détente.
Est-ce que je veux, juste pour faire sourire à nos auditeurs, qu'on est très sérieux depuis tout à l'heure, il faut savoir que le général de Gaulle, quand il était à l'Élysée, payait de sa poche ses repas et ceux de sa famille, car il considérait que l'État n'avait pas à le nourrir en dehors des repas officiels. Et quand il invitait Nixon en famille, il payait de sa poche pour inviter le président des États-Unis. Enfin, qui à l'époque n'était pas encore le président des États-Unis. C'est vous dire que les choses ont beaucoup évolué.
Comme le temps passe.
Le temps passe.
absolument, et il y avait même à l'Élysée, là encore c'est de la petite histoire, mais ça en dit long, un compteur particulier pour les appartements privés, un compteur EDF particulier. Rien n'était trop beau quand il s'agissait de défendre le statut de la France. Les réceptions étaient somptueuses, étaient magnifiques, mais de Gaulle et sa famille vivaient très modestement. D'ailleurs, de Gaulle recevait très rarement petits-enfants dans les appartements privés de l'Élysée de peur qu'ils cassent quelque chose.
Oui, non, c'était une autre mentalité,
monde. Mais nous étions en État souverain, ce qui a un peu changé. Oui. Parenthèse close. Et donc Nixon prend des habitudes tout à fait intéressantes avec de Gaulle. Il le consulte et il parle de la Chine. De Gaulle lui dit « il faut sortir la Chine de l'isolement. Il faut parler avec les Russes autrement qu'en se menaçant avec les missiles, etc. » Et Dieu sait si là encore de Gaulle n'avait pas de leçon à recevoir de ce point de vue-là. Quand il parle de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, ça ne fait pas spécifiquement plaisir aux soviétiques. Quand il parle de la Russie et pas de l'Union soviétique, ça ne fait pas du tout plaisir à Brejnev. Quand il va à Varsovie, on imagine. Bon, donc de Gaulle n'avait aucune leçon à recevoir de ce point de vue-là, mais il savait que la France avait un devoir, c'était de défendre la paix partout où elle le pouvait. Et défendre la paix, c'était être non aligné, tout en gardant ses alliances et en le prouvant dans les cas dramatiques.
Excusez-moi, je vous interromps une seconde, parce que vous venez de dire une chose qui me paraît très importante. Pour avoir la paix, de Gaulle considérait qu'il ne fallait pas être aligné.
Non, jamais.
Et donc, là, une fois de plus, regardons ce qui se passe aujourd'hui.
Exactement. Je crois que le rêve de Gaulle aurait été de prendre la tête des non-alignés. Ouais. D'où sa politique dans le tiers-monde, d'ailleurs. Mais en même temps, il y avait la menace soviétique qui était réelle. Et donc, on était aux côtés des Américains. Quand les Soviétiques se mettent en tête d'installer à Cuba des rampes qui peuvent menacer Miami.
Tout à fait.
Ils installent des rampes de lancement à 300 km des côtes de la Floride. Ça ne vous rappelle rien
pour être encore plus clair, si vous voulez, derrière ce qui vient d'être dit, souvenez-vous du problème d'Odessa. Si l'OTAN l'Ukraine fait partie de l'OTAN et que le port d'Odessa sur la mer Noire fait partie de l'Ukraine, il y aura une base militaire de l'OTAN. Elle sera à 100 km, pas plus, de Sébastopol, qui est une des deux plus grandes bases russes. Est-ce que vous pensez sérieusement que les Américains, on l'a vu à Cuba, pourraient accepter une base russe à une centaine de kilomètres de leur côte, exactement comme chez nous, si on avait une base chinoise à Bastia ou à Ajaccio? Est-ce que vous pensez que pour Toulon, ce serait acceptable? C'est le fond du problème sur ce qui va nous arriver, sur ce qui va arriver, le problème d'Odessa dans le cadre de la guerre en Ukraine.
Et je raconte une scène tout à fait incroyable, qui fait partie des documents déclassifiés. C'est Dean Rusk qui raconte que pour avoir l'appui de la France dans l'affaire des missiles de Cuba, il se déplace à l'Élysée et il va montrer au général les photos prises par les avions U-2 des bases de missiles qui s'installent tranquillement. Et de Gaulle chausse ses lunettes, il avait une très mauvaise vue, il prend une loupe, il regarde et il dit « Nous sommes de votre côté ».
Bien
de
sûr.
Votre côté. Mais sans la moindre hésitation. Alors que les Anglais, évidemment, sont du côté, mais enfin, eux, ils n'ont pas.
Ils ne s'engagent pas autant qu'à l'époque, donc, les Français sont engagés.
Même chose à Berlin. Quand le mur de Berlin est monté au mois d'août 1962, pour des raisons dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais il se trouve qu'on a beaucoup plus de chars à MX que d'habitude à Berlin, et que les Russes en ont extrêmement peu dans leur secteur, pour des raisons que j'ignore. Et à ce moment-là, les Russes ne se mettent pas à monter un mur comme on pense. Ils ont mis 3 ans, 4 ans à le monter. Ils mettent des barbelés. Et De Gaulle essaie de joindre Kennedy, essaie de joindre Macmillan, le premier ministre britannique, et lui dit « Nous sommes tout à fait en capacité d'écraser ces barbelés. Et je pense qu'il faut le faire. Parce que le rapport de force sera institué et ils ne continueront pas. Si nous laissons monter un mur, ça sera différent. » Et Kennedy est injoignable et Macmillan chasse la grouse en Écosse. Et 4 jours après, c'est trop tard.
C'est trop tard, oui.
Et donc De Gaulle était prêt à aller encore plus loin.
Éric, on vient de parler de toute une série de personnages tout à fait exceptionnels. Il y en a un, parce qu'on vient de le voir réapparaître récemment, justement, prenant une position très claire et très intéressante sur l'Ukraine, c'est Kissinger.
Kissinger.
Donc, peut-être en parler, parce que Kissinger, lui, alors en tant que visionnaire sur le plan diplomatique, je crois que tout le monde peut reconnaître que ça a été le ministre des Affaires étrangères.
Ne pouvait que s'entendre avec Nixon, puisqu'il avait comme lui, et comme De Gaulle, évidemment, ça va sans dire, une vraie culture européenne. Kissinger est d'origine allemande, il a fait toutes ses études en Allemagne, il a émigré au moment où Hitler est arrivé au pouvoir, mais c'est quelqu'un qui connaît l'Europe, la culture européenne parfaitement. Et il avait tout à fait compris que la France avait une carte à jouer dans l'indépendance aux côtés des États-Unis. Et il n'a cessé de plaider, car au départ, Kissinger était démocrate. Et il travaillait plutôt pour le camp démocrate. Et il n'a rejoint Nixon que sur des raisons de fond, pas du tout sur des raisons de politique intérieure, mais sur des raisons de fond, car il pensait que c'était le seul qui était capable d'avoir de rénover l'Alliance Atlantique dans le respect des souverainetés nationales. Parce qu'il disait, c'est pas une question d'aimer la France ou de pas l'aimer, c'est une question d'être efficace. Et donc, si on respecte la France, cette alliance sera efficace. Et donc, il a eu un rôle aux côtés de Nixon extrêmement important de rapprochement avec la France. Il faut lire les mémoires de Kissinger, et notamment le récit, c'est magnifiquement écrit et bien traduit, le récit de l'enterrement, justement, d'Eisenhower. Ouais. En mars 1969. De Gaulle et Nixon ne se quittent pas en 69. De Gaulle va quitter le pouvoir en avril, dans les circonstances qu'on sait, et Nixon, lui, arrive en janvier, 21 janvier 1969. Sa première visite est pour la France, au mois de février. De Gaulle le reçoit comme il n'avait reçu aucun président américain. Et puis, là-dessus, Eisenhower meurt aux États-Unis, et donc De Gaulle est invité par Nixon à son enterrement. Il est reçu magnifiquement. Et donc il y a vraiment une période d'amitié franco-américaine où vraiment on repart sur de bonnes bases, qui sont les bases inverses des bases du temps de Johnson. Et il faut lire ce que raconte Kissinger sur la réception à la Maison-Blanche qui suit l'enterrement d'Eisenhower. Il dit que les chefs d'État se pressaient autour de De Gaulle et faisaient la queue pour l'approcher. Et ça, c'est grâce à Nixon qui a levé un peu l'interdit qui pesait contre De Gaulle vis-à-vis de tous les alliés des États-Unis.
Je crois qu'on arrive un peu à la fin de cette émission, mais je dois vous remercier vraiment parce que je pense que pour beaucoup de gens, d'abord qui ne connaissent pas cette période de l'histoire, et compte tenu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et sur lesquels on a besoin de points de repère, de se retrouver, il est très important de lire un livre comme le vôtre qui ouvre des quantités de possibilités sur des solutions qui avaient déjà été imaginées à l'époque et qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et pour reprendre ce que disait Kissinger il y a quelques jours, il a fait un discours formidable où il a dit, attendez, à l'évidence, dans une affaire comme ça, la seule solution, c'est de négocier parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On voit bien là le conflit entre l'État profond américain et ses représentants, y compris chez nous, parce que vous avez des pro-atlantistes chez nous comme ailleurs, et cette volonté de faire la guerre, alors que de l'autre côté, la raison et la raison d'État et l'intérêt d'État hein, poussent à ce qu'on trouve des solutions négociées parce que c'est la bonne solution. Et là, quelle leçon on nous prend avec justement l'histoire des relations entre les Américains et les Français dans lesquelles on apprend qu'il faut savoir se défendre.
Il y a une chose que je voudrais ajouter, si j'ai le temps, c'est sur la proposition que Jacques Chirac avait faite fin 2006 et qui est maintenant connue. C'est une proposition, alors évidemment, il ne faut pas faire parler les morts et je ne vais pas dire ce que de Gaulle aurait fait. On peut à peu près être certain de ce qu'il n'aurait pas fait. Ça réintégrait l'OTAN, je crois qu'on peut être sûr qu'il ne l'aurait pas fait. Et se mettre dans un état de suggestion, parce qu'on est dans un état de suggestion bien supérieur à celui où nous étions dans les années 60. Bref, mais Jacques Chirac a fait une position qui était, après une position qui, à mon avis, sur l'affaire ukrainienne, était tout à fait dans la lignée gaullienne, qui était de garantir l'indépendance de l'Ukraine, de la faire garantir à la fois par la Russie et par l'OTAN. Ce qui aurait induit un double contrôle, chacun aurait contrôlé l'autre.
Et donc il serait neutralisé.
Oui. Exactement. Elle aurait été neutralisée. C'est ce que voulaient les Russes. C'était conforme à leur intérêt, mais ça aurait évité ce que nous connaissons maintenant, une invasion militaire.
Exactement.
Et qui a refusé? Madame Condoleezza Rice, au motif, c'est ce qu'elle a dit à Maurice Gourdeau-Montagne, c'est par lui que je l'ai appris, n'est-ce pas, au motif que cela aurait empêché l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'était bien la preuve que c'était la prochaine étape.
Et vous venez de le dire, en 2006.
En 2006, fin 2006.
Donc, et vous m'apportez une formidable conclusion, parce qu'en 2014, quand Victoria Nuland, actuelle vice-ministre des Affaires étrangères américaines, mais qui à l'époque était la responsable pour l'Ukraine des États-Unis. Victoria Nuland a déclaré au Congrès américain il y a quelques mois, au début de l'année, interrogée justement à cause des problèmes de l'Ukraine, elle a dit, vous comprenez, en 2014, on a investi 5 milliards de dollars pour que l'Ukraine vienne avec nous, c'était pas pour tout laisser tomber. Et par là, elle voulait dire aussi que les accords de Minsk 1 et Minsk 2, qui avaient été signés par les Russes, les Allemands, les Français, les Ukrainiens, n'avaient à ses yeux aucune valeur. Et là, on est en plein, on est la continuation de ce qui vient d'être dit. Donc vous voyez, je crois qu'en lisant un livre comme celui d'Éric Branca, eh bien, on peut trouver quantité d'explications de la situation actuelle. Ça nous fait réfléchir. Et si ça pouvait faire réfléchir ceux qui nous dirigent, ce serait une excellente chose. Merci d'avoir participé à cette émission et puis peut-être à très bientôt pour un autre livre.
Merci à vous.
Merci Eric.
Merci à tous. Encore une émission très intéressante. Et encore une fois, alors là pour le coup, c'est une lecture de la géopolitique, des géostratégies actuelles, mais à la lumière de relations franco-américaines sur 70 ans. Et c'est tout l'intérêt de nos émissions, de nos invités. Et vraiment, merci beaucoup, c'était passionnant. Je donne rendez-vous pour une prochaine émission sur openboxtv.fr. À très bientôt. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV. Et vraiment, nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat. Et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.